C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM. Et aujourd'hui, on parle de la semaine du son qui démarre lundi, créée il y a 19 ans par notre invité Christian Hugonnet, et ingénieur acousticien. Elle la sensibilise aux enjeux sociétaux du sonore, et on peut démarrer cette sensibilisation très tôt, dès l'âge de 3 mois, puisqu'il y aura un jardin d'éveil immersif les 19 et 26 janvier à Paris. Beaucoup d'autres événements en Ile-de-France, mais aussi dans toute la France, notamment à Lyon. On parlera de différents événements lyonnais, la place à l'écoute et forum des paysagistes sonores. On en parle donc avec nos invités dans quelques minutes sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence. Et on parle de cette semaine du son de l'UNESCO du 18 au 26 janvier. Donc ça commence lundi avec notre invité Christian Hugonnet. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors, il va falloir rapprocher le micro parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, on entend le micro. Il faut vraiment parler près du micro, Christian. Alors, cette semaine du son, elle a été créée il y a 19 ans par vous ?
Absolument. C'était une prise de conscience importante qu'il fallait amener auprès du grand public pour aider, j'allais dire, des élus également, hein, les amener à prendre conscience que le sonore, c'est ce qui nous guide le plus, hein, c'est ce qui nous mène, ce qui nous fait agir, hein, dans tous ces secteurs. Le secteur de l'environnement sonore, hein, qui fait qu'on peut être violent si on est dans un lieu qui est mal traité acoustiquement. On peut être, au contraire, dans un lieu VIP extrêmement tranquille. Hein, on a ce qu'on appelle le silence pour les riches et la violence et puis le bruit pour les pauvres, hein, donc effectivement ça aussi c'est une notion qu'on a développée avec Cynthia Fleury il y a quelques temps. Donc bien comprendre qu'il y a effectivement peut-être un effet de ségrégation par le sonore dans l'environnement. Deuxième thème qui est très important, qui est celui de la, puis amener aussi les architectes, hein, on va en parler justement, à imaginer le son en amont, hein, l'acoustique en amont, pas après, hein, arrêter de faire du traitement acoustique, essayer de faire de considérer l'acoustique et le sonore comme un déclencheur de l'architecture en amont. Donc deuxième thème qui est très important, celui de l'enregistrement, de la reproduction du son. On y est, là, on est dans une radio. Hein.
Voilà.
Et à quel point une radio, c'est un lieu extrêmement important. Il faut que le son, vous le disiez tout à l'heure, soit de qualité. Hein. Si je parle à côté du micro, ben, j'entends plus rien. Là, je suis
on
dans
entend
le
moins bien. Voilà, restez bien dans l'axe.
Donc, il faut maîtriser tout cela et écouter également en multicanal. Écoutez, arrêtons de massacrer les gens avec des enceintes frontales dans les concerts. Essayons de mieux répartir les sons dans les salles de spectacle. Et puis, troisième secteur qui est très important. Et puis on se bat aujourd'hui beaucoup contre la compression, on en parlera peut-être après. Et essayons d'avoir des sons qui respirent un peu avec un peu plus de nuance quand on peut le faire. On a Universal nous a rejoint là cette année sur ce problème des albums qui doivent maintenant garder un minimum de respiration. Hein. Oui. Ça, c'est très important. Le troisième thème qui est celui de la santé auditive, justement. Donc comment garder une santé auditive correcte à tout âge de sa vie, hein, et surtout prendre conscience que ben, l'oreille n'a pas de paupières et qu'à force d'écouter des niveaux forts et surtout des niveaux qui ne désemplissent jamais, hein, eh bien on peut arriver effectivement à saturer les cellules ciliées et faire que le cerveau finisse par abandonner. Le cerveau dans sa dimension d'écoute du monde finisse par lâcher et vous lâche. Et quand on perd l'ouïe, on perd tout. Hein. Il faut bien comprendre que c'est le sonore qui nous mène, hein, c'est pas l'œil. Hein. J'aime bien dire que nous sommes tous rétiniens, hein, mais on devrait être un peu moins rétinien, un peu plus sur l'oreille. Quatrième point très important qui est la relation image et son. Hein, le quatrième thème est important. Savoir que le son crée l'image et vous le savez bien en radio. Hein, quand vous envoyez quelque chose, des idées, quand vous parlez, effectivement, vous créez en fait chez l'auditeur en fait des images dans son cerveau.
Oui.
Et quand il vous voit, peut-être qu'il peut être déçu aussi
il peut
de
être
vous voir d'un seul coup parce qu'il s'est mis, en,
oui.
Il s'est créé en fait une image de vous qui n'est pas fait forcément celle que vous êtes aujourd'hui. Et donc, on a lancé aussi avec Costa Gavra et Thierry Frémaux à Cannes le prix de la meilleure création sonore. Et ça, c'est génial. Donc, ça n'existait pas à Cannes depuis 75 ans que Cannes existe. Et ça, c'est très fort. Et puis, on a des concours internationaux qui s'appellent Quand le son crée l'image. On en voit, on a fait avec Gabriel Yarel cette année un concours qui s'appelle Quand le son crée l'image. Donc, on lui demande de composer une musique de 1 minute 40. Et derrière, on demande à partir de cette musique, de je crée un film. Et tout le monde crée un film sur la même musique, vous vous rendez compte? Et ça fait des centaines, des milliers de films différents à partir du même son. Ça permet aux jeunes et à moins jeunes aussi d'écouter, de bien écouter, quoi.
Oui. Et cette année... C'est la première année que vous le faites ou...
C'est la deuxième année, ouais.
Et ça donne quoi, alors, en résultat?
C'est extraordinaire.
Il y a des choses très différentes?
Ah oui, on a des réponses du monde entier, surtout, et avec des contextes différents, de la Chine à l'Afrique du Sud, en passant par l'Argentine. Ça nous donne, en fait, une cartographie assez exacte, finalement, de ce que pensent, de ce que voient les gens, de s'exprimer, de ce que ressentent les gens. Et c'est extraordinaire. Alors, des gens qui sont très proches, qui font des scénarios qui sont très proches de la musique, c'est génial. C'est ceux qui sont retenus dans des concours. Puis ceux qui sont complètement en dehors, évidemment, si vous mettez une image pendant 1 minute 40, ça ne va pas faire grand-chose, vous voyez.
On a des scénarios
qui sont intelligents, quoi, vraiment, et qui partent du même son, quoi.
Hein. Les gens qui vivent en France, par exemple, ils vont produire quelque chose qui est très déconnecté du son ou...
Non, on est en France, c'est pas si mauvais que ça, on aime les images, donc en fait, on a souvent de très jolis scénarios, assez intelligents, assez rythmés, chacun s'essaye, et ça donne des résultats absolument incroyables. On a lancé ça auprès des 24 académies françaises, et ça marche vraiment bien, les écoles donc jouent ce rôle, ce jeu-là. Et on a demandé cette année à Ibrahim Malouf de faire justement la séquence musicale de cette année qui va être présentée au mois de janvier, donc lors de la semaine du son.
Hein. D'accord. Et donc les personnes ont déjà envoyé leurs projets. Ça, c'est fini. On ne peut plus envoyer sous projet.
Ah bah si, on redémarre maintenant sur la musique de Gabriel, d'Ibrahim Malouf. Donc, à partir du mois de février, les gens vont pouvoir envoyer leurs projets. Il faut qu'ils jettent un coup d'œil sur le site lasemainedusson.org. C'est génial. Et tout le monde devrait s'essayer à faire ça parce que ça prouve bien une chose fondamentale, c'est que précisément le son crée l'image. Et vous, hommes et femmes de radio, vous créez des images en permanence.
Oui, et pas l'inverse. L'image ne va pas créer le son.
Non, l'image ne crée jamais de son, finalement, ou très peu, sauf réseau artistique, si je puis dire. Mais c'est surtout le sonore qui mène vers l'image. Si vous coupez un film, l'image d'un film, vous avez encore le son, quoi. Et on parlait tout à l'heure d'Hitchcock. Si vous coupez l'image d'Hitchcock, de n'importe quel film d'Hitchcock, vous comprenez tout. Et un mauvais réalisateur, ce serait un réalisateur qui aurait oublié cette notion-là, quoi.
Oui.
Et quand on veut faire un film, la plupart du temps, et quand on est amateur, on se rue sur l'image, et on oublie tout simplement que c'est le son qui crée l'image. Il faut que la bande-son soit de qualité pour que l'image soit effectivement à sa place.
Oui.
C'est important.
Et tout à l'heure, vous commentiez, on avait une chronique sur les années folles et le cinéma muet, entre guillemets, et vous commentiez, vous disiez, mais non, c'était pas muet.
Voilà, le cinéma muet n'a jamais existé, hein, tout simplement. Et tout de suite, effectivement, dès l'instant où on a montré une image, un film en tout cas, on a tout de suite voulu mettre du son et de la musique sur ce film. C'est évident, parce que sinon, c'est la vie. Le son, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce monde, finalement? Je vous regarde et je me dis, mais attendez, si j'enlève le son, qu'est-ce qui me reste, quoi? Après, il y a le langage des signes, pour ceux qui, malheureusement, qui n'ont pas l'accès au son.
Perçoivent les vibrations, tout de même.
Oui, ils ont quand même des vibrations, mais le son, c'est notre relation à l'autre. Et si on enlève la relation à l'autre, à quoi ça sert d'exister sur cette terre,
hein? Donc, je reviens au cinéma muet. Donc, il y avait toujours un pianiste qui jouait à côté. Il y avait de la musique, il y avait du son.
Toujours.
Lorsqu'on allait voir du film, les premiers films.
Il y avait un pianiste toujours qui était là, ou bien une petite formation musicale, mais il y avait toujours du son pour pouvoir, je dirais, décrire l'image et aussi, pas rien que décrire, c'est-à-dire la faire grandir, lui donner du sens. C'est pas vrai que le son n'est pas là pour être un commentaire de l'image. C'est pas vrai. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que un bon son, en fait, il est là pour donner à l'image sa dimension. Et ça, c'est fondamental. Un exemple très intéressant que moi qui travaillé à l'IRCAM pendant quelques temps, lorsque on montrait deux images de même qualité et deux films, et sur l'un des deux films on dégradait le son, hein. Et bien là où le son était dégradé, les gens me disaient mais l'image est moins bonne. Mais ils disaient pas que le son était moins bon, ils disaient que l'image était moins bonne. C'est hallucinant, quoi.
Oui.
Donc ça veut dire que si vous avez un mauvais son, vous avez aussi une mauvaise image, et ça, c'est une notion importante. On le dit aux architectes, on dit putain, regardez quand vous construisez un bâtiment, mais il faut faire attention, où est-ce qu'il est installé, ce bâtiment? S'il est dans une artère extrêmement brillante, on ne le verra jamais, votre bâtiment. Vous comprenez? Et quand on crée un bâtiment, il faut aussi penser à l'isolation, etc. Autrement dit, le confort, le plaisir plaisir en fait d'un n'importe quel lieu, quel qu'il soit, c'est d'abord le sonore pour ensuite être vu. Autrement dit, il faut rétablir cette notion-là, et c'est le rôle de la semaine du son d'amener en fait au niveau national et international avec l'UNESCO, ramener cette conception fondamentale consiste à penser que notre vie c'est d'abord du sonore pour mieux voir, encore une fois. Donc si j'avais un slogan à retenir, ce serait écouter pour mieux voir. D'ailleurs, c'est le slogan qu'on a retenu pour cette année.
Oui, oui. Et donc on appréhende le son sur toutes ses dimensions. Alors, il y a beaucoup de temps fort en France.
Juste un mot peut-être, excusez-moi, le cinquième thème que je voulais évoquer, c'est la musique. Oui. La musique qui est malheureusement jouée aujourd'hui à moins de 1%, vous rendez compte, de la population française joue d'un instrument de musique. C'est hallucinant, quoi. Et on n'aurait jamais dû mettre, évidemment, la musique dans une case culturelle seulement. C'est du sociétal, la musique. On devrait tous être musiciens. On devrait tous être capables de jouer en improvisation ou non, peu importe. Mais on a parlé avec Ibrahim Malouf l'autre jour. Il faut qu'on soit tous, ou bien Jean-Claude Casadesus, qui est aussi parrain de la Semaine du Son. Tous ces gens-là nous disent, ou Nathalie Dessay, ou enfin bon. Là, on était avec, hier, j'en discutais encore avec Thomas Dutronc, qui sera avec nous cette année aussi. Il faut qu'on arrête de voir la musique, un truc comme ça, qui n'est que culturel. On doit tous être capable de s'exprimer musicalement, car la musique, c'est le rapport à l'autre. Donc, quand on commence un instrument de musique, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme dans tous les pays anglo-saxons, on devrait avoir la capacité d'avoir
l'éducation est meilleure dans les pays anglo-saxons qu'en France?
Ah ben oui.
Il y a pourtant des cours de musique en France.
Oui, mais ils sont dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Et aujourd'hui, à Paris, on doit faire la queue pour pouvoir rentrer dans une école de musique ou dans un conservatoire, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et aujourd'hui, on doit aussi être capable de jouer collectivement. Donc on réclame auprès des instances politiques. Aujourd'hui, au gouvernement, on lui dit, quand vous construisez un collège, donnez-vous la possibilité d'y mettre un petit auditorium où la musique puisse être jouée collectivement, où les jeunes puissent s'écouter les uns les autres,
oui.
et jouer en collectif, ce qui existe dans tous les pays anglo-saxons, en Allemagne, au Japon, partout, quoi. Et nous, nous ne sommes pas capables de faire ça.
Oui.
Et ça, c'est important. Oui. Et c'est pour ça qu'on est à 1% de gens qui jouent d'un instrument de musique.
Oui. Hein? Et alors, ces cinq thèmes, vous essayez de les retranscrire, de les faire intervenir dans différents événements. Alors, en Ile-de-France, on va citer le premier, dont j'avais déjà parlé, le jardin d'éveil immersif.
Ouais.
Ça, c'est pour les tout-petits.
Oui, absolument. L'idée, c'est l'éveil. Hein. C'est de sentir qu'il y a, effectivement, que l'enfant, il faut qu'il entende. Il faut arrêter une chose importante, arrêtons effectivement ces jouets musicaux complètement qui sont complètement compressés, qui fait que le gosse, il n'a rien demandé à qui que ce soit, il est déjà dans le berceau avec un son qui va lui ramollir toute la zone auditive du cerveau,
oui.
parce qu'il n'a aucun sens, ce son. C'est un son électronique merdique et qui ne joue pas en nuances et qui n'est même pas riche en timbres et qui est posé sur tous les berceaux et qui fait que l'enfant, il va découvrir la vie avec un son merdique. Et je pense qu'il faut vite réagir sur ce problème-là. Donc, mettons les enfants dans ce type de lieu pour entendre justement le bruit des oiseaux, mais pas que, le bruit des feuilles, etc. Il faut que les micro-bruits soient perçus dès les plus premier moment de la vie, de manière à ce que l'enfant s'en fasse en fait des références.
Oui, oui, il y a une éducation musicale, il faut que les parents fassent attention à ne pas transmettre n'importe quoi.
Mais quand j'entends, moi, une clarinette pour la première fois dans ma vie à travers un baladeur qui fait que, comme je suis ingénieur du son, je sais que je l'ai trafiqué 36 fois et que c'est plus du tout une clarinette, je veux dire, qu'est-ce qui nous reste de nos références? Pour ça qu'on devrait tous mettre, on le disait avec Roberto Alagna l'autre jour, qui est parrain de la Semaine du Son, il faut qu'on soit tous effectivement capables d'être dans une salle de concert à un moment donné pour entendre un vrai son, quoi, un son naturel. Et puis après, on peut toujours aller sur des sons trafiqués.
Oui, oui. Et beaucoup de gens ne vont jamais justement dans les salles de concert, ils vont écouter de la musique en MP3, en MP4.
Voilà, absolument, avec du MP3 sacrifié, avec un échantillon sur 12, rendez-vous compte. Autrement dit, sur 12 échantillons, on n'en prend qu'un seul pour restituer une partie du signal, forcément, donc on n'a pas le vrai son. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on écrase d'une certaine manière un peu tous les sons et du coup, on a des sons qui ne désemplissent jamais, sans nuance. Donc du coup, la notion de micro, de silence, de micro-silence, de respiration pour l'oreille nécessaire nécessaire à sa survie, finalement, n'existe plus. Donc, on a aussi ce problème d'un son qui devient un petit peu, qui vient au kilomètre, quoi, qui devient un son qui n'a plus de sens, quoi.
Oui. Et c'est pour ça qu'on revient au vinyle, c'est ça? Que certains...
Oui, c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui redécouvrent le son des années 80, je veux dire, où on avait, effectivement, j'écoutais encore l'autre jour les Pink Floyd, ou Alan Parsons, ou des gens comme ça. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. On avait une dynamique, une respiration incroyable, et qu'aujourd'hui, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Et donc, on redécouvre en fait un son qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est pas le vinyle, c'est pas le matériau qui fait plaisir. C'est bien qu'il c'est pas un des plaisirs non plus. Mais c'est surtout le fait de retrouver un son nouveau avec des micro-silences.
Oui. Alors, on va prendre en ligne Arthur Enguerrard, responsable des événements lyonnais de la Semaine du Son. Bonjour Arthur.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes responsable de Place à l'écoute et du Forum des paysagistes sonores. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces événements qui auront lieu la semaine prochaine?
Ouais, sans souci. Merci beaucoup Carole de m'accueillir. Effectivement, je suis responsable, en fait, je suis coordinateur avec notre association Pépasson et puis avec l'école d'architecture de Lyon qui est à Vaux-en-Velin et le conservatoire. Et effectivement, avec notre association, on organise un temps fort dans cette semaine du son qui déroule avec une matinée, une après-midi, donc en deux temps, qui sont Place à l'écoute et le Forum des paysagistes sonores,
oui,
qui sont un double événement en fait d'exposition, de rencontres autour des pratiques qu'on dit de médiation et de pédagogie des paysages sonores. Donc c'est une invitation à la population à rencontrer un ensemble de créateurs et créatrices, de médiateurs, médiatrices, de gens qui sont engagés dans une réflexion et dans des créations autour de comment est-ce qu'on peut écouter, comment est-ce qu'on peut changer notre manière d'écouter, et qui vont proposer à la fois sous forme de performance le matin avec Place à l'écoute d'essayer des posture d'écoute, d'essayer d'utiliser un certain nombre de matériel d'écoute et de modification du paysage sonore, puisqu'on aura aussi une performance avec des micros et tout un tas de transformations et de mixages. Et puis l'après-midi, on va être plutôt sur le forum, c'est un format de présentation, donc pour celles et ceux qui sont familiers peut-être de TEDx, qui passe pas mal sur les plateformes. Ça va être un petit peu ce format-là, mais de manière un petit peu plus populaire et conviviale. Et où un certain nombre d'invités vont présenter des projets qu'ils ont eus dans l'année, des initiatives pédagogiques. Donc ça va être à la fois dans des milieux enseignants, de profs et de personnes comme ça, mais aussi dans des milieux plus de l'éducation populaire ou les milieux de la médiation artistique, et qui vont présenter des initiatives soit ponctuelles, soit de longue durée, qui ont pu avoir lieu en France, en Belgique, et on a même des gens du Québec.
Ah oui, très bien. Donc c'est francophone.
Oui, c'est francophone. Ouais. L'association qu'on est, Pépasson, Pédagogie des paysages sonores, pour le moment, elle travaille à l'échelle de la francophonie.
Très bien. Arthur, ça se passe où et quand exactement?
Alors, le forum se passe au Périscope, qui est un bar-concert juste à côté de la gare de Perrache. Et Place à l'écoute, c'est sur la place des Archives, donc juste à côté. Place à l'écoute, ça va être des performances qui... Donc, on va ouvrir les performances de 9h30 du matin jusqu'à 13h30, avec deux temps forts qui seront à 10h30 et à 11h30 par des invités qui vont vraiment venir réveiller la place avec des animations plus spécifiques. Et le forum, c'est de 14h30 à 18h30 avec deux pauses où le forum va se passer dans la salle de concert avec une dizaine de présentations de 15 minutes à chaque fois qui vont laisser aussi place à l'écoute, puisqu'on a demandé à tout le monde de ramener de quoi écouter. Et dans le bar Le Périscope, pour toute personne aussi qui voudrait venir pendant à peu près à n'importe quel moment, de toute façon, il y a un espace d'exposition dans l'espace de bar où on va disposer aussi beaucoup de matériel, de la possibilité d'écouter, de la possibilité de feuilleter des choses. Et ça se poursuivra au moins dans cet espace d'exposition jusqu'à 20h30.
Oui, et Arthur, ça s'adresse à tout public?
Ça s'adresse vraiment à tout public. Donc on a fait le choix d'un format court, hein, d'un format aussi très inclusif, justement pour que toute personne puisse venir. Donc c'est à la fois un lieu de ressourcement et d'inspiration pour toute personne qui a déjà un pied dans la pédagogie. Mais la pédagogie, quand on commence à s'y intéresser, c'est quelque chose de vraiment très large qui en fait nous touche tous les jours, toutes et tous. Et donc, je pense que n'importe qui peut y trouver son compte. Et typiquement, le matin, sur Place à l'écoute, bah, c'est des performances qui sont vraiment ouvertes à tous citoyens et citoyennes. Je pense que les enfants y trouveront vraiment leur compte.
Donnez-nous juste un exemple avant de conclure.
Ouais. Et bah, par exemple, une des performances qu'on va accueillir le matin, ça va être ce qu'on appelle une partition paysagère. Donc, le but va être, avec de la peinture, de faire une immense fresque qui va écrire la partition musicale, on dira, du paysage. Ça va se faire sur une grande fresque au sol d'à peu près 5 mètres par 5 mètres. Donc ça, je pense que n'importe qui peut le faire et c'est très, très rigolo de le faire tous ensemble. Et puis l'après-midi, on a des présentations qui vont être avec beaucoup de créations sonores et beaucoup d'écoute. Et bon, pour pas faire tout le programme, simplement pour dire que je pense que tout le monde peut y trouver son compte à écouter des belles créations. Ça va avoir un peu une ambiance de cinéma. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour y aller.
Oui. Arthur Enguerrard, merci. Merci pour cet événement et merci de nous en avoir parlé. Je vous souhaite une très bonne journée.
Ben merci Carole, passez une très bonne journée.
Merci à vous. Christian Huguenet, vous entendez Arthur qui parle d'événements lyonnais, Place à l'écoute et Forum des paysages sonores. Il y en a dans toute la France.
Oui, alors ça donne envie d'en avoir encore plus. Hein. C'est ce genre d'événement incroyable quoi, qui fait que ça y est, c'est parti. Ça prit feu, si je puis dire. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait du podcast au sein de votre radio. Mais le podcast, qui aurait pu imaginer que le podcast aurait autant d'adeptes, finalement hein, je veux dire, le podcast, c'est vraiment que du son, finalement. Quoi. Et ça, c'est génial. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a bien dans ce sonore, en fait, un degré de liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? On a emmené des jeunes, quelque part, un peu au mur, avec du visuel, toujours du visuel, et on leur dit maintenant, bah, peut-être qu'avec le sonore, vous pouvez peut-être vous évader un peu plus encore. Et je crois que c'est là l'avenir de la radio, et moi qui suis un homme de radio aussi, je considère que c'est la radio qui va nous permettre de franchir ces étapes et d'aller beaucoup plus loin dans l'imaginaire, hein, parce que vous avez la chance, nous gens du son, quand on a le son, on a l'image, encore une fois. Donc on est en train de lancer ça au niveau national, dans toutes les régions. Il y a Montpellier, il y a le livre audio qui marche vachement bien aussi, qui cartonne, quoi, faut le dire. On ne pouvait pas imaginer que le livre audio, ce serait un truc aussi important.
Bah oui, au départ, c'était réservé aux personnes déficientes visuelles et tout le monde se l'est approprié.
Absolument, oui. Il y a la synthèse sonore qui marche très très fort aussi aujourd'hui, donc toute l'intelligence artificielle.
C'est quoi la synthèse sonore?
La synthèse, c'est-à-dire qu'on est une société, on a des sociétés françaises, là, des startups qui décident, elles vous lisent le matin les journaux, hein, elles vous le traduisent en fait en son, en fait, elles vous le traduisent en son, tout simplement, avec une voix de synthèse, hein, et le matin, vous partez au boulot et vous avez tous les journaux dans la tête, vous les entendez, tout simplement, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, vous voyez, on peut faire parler une personne qui est partie, hein, qui est décédée, hein, aujourd'hui, hein, on a la capacité aujourd'hui de
recréer des phrases.
De créer, absolument, oui.
Ah oui, c'est dangereux.
L'autre jour, je voyais Dussolier à l'IRCAM qui s'écoutait parler. Il m'a dit, mais jamais j'ai dit ça. Mais non, jamais t'as dit ça. Ben non, tu l'as pas dit, mais la voix de synthèse était en train de te le dire à ta place.
C'est incroyable.
Donc c'est grave. Ça veut dire que, précisément, il va falloir qu'on s'y attache de plus, de très près, parce qu'il y a une dimension éthique qui est très importante dans tout cela. Quoi.
Oui, c'est
donc,
certain.
Donc, vous voyez, le sonore va devenir très important. On sait bien qu'on peut faire acheter quelqu'un dans une n'importe quoi dans un supermarché, vous rentrez dans un supermarché, vous avez envie d'acheter une brosse à dents, vous ressortez avec une savonnette, et puis vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai acheté une savonnette? Et bien tout simplement parce que quelque part, comme l'oreille n'a pas de paupières, on est allé effectivement vous faire acheter la savonnette. Donc vous voyez, je crois qu'il faut être très conscient qu'on est dans un monde qui va de toute façon utiliser le sonore de plus en plus, parce que c'est encore une fois notre bien d'existence finalement, mais encore une fois, il faudra le surveiller, et voilà. Et c'est un sujet extrêmement passionnant, évidemment, et totalement sociétal, évidemment. Donc il faut le maîtriser plus que jamais.
Oui, oui. Et donc
toutes les régions de France, effectivement, y vont. Il y a Nice aussi, vous me demandiez Nice. Ben oui, Nice, c'est le CHU de Nice qui s'intéresse plus à l'audition. Marseille, c'est plutôt les Calanques, des balades, effectivement, sur les Calanques de Marseille. C'est génial, quoi. On va pouvoir écouter les sons, etc., des oiseaux, etc., des balades sonores.
Oui.
Ça marche extrêmement bien. On va s'intéresser à Murray Schafer, qui était le père de l'écologie sonore aussi, qui a lancé le Soundscape, qui est le paysage sonore. C'est lui qui a été d'ailleurs un des parrains de la Semaine du son, qui rêverait, malheureusement il nous a quittés il y a quelques mois, et il rêverait de voir cette Semaine du son se mettre en place aussi largement en toute la France, mais aussi, pas que, dans tous les pays du monde, parce que grâce à l'UNESCO, on est en train de lancer une vingtaine de pays, pour tout vous dire, qui vont effectivement mettre des semaines du son à certains moments de l'année, en fait.
Oui. Alors on explique, vous l'avez créé il y a 19 ans, Christian Hugonnet, et du coup, l'UNESCO s'est associé au projet, et maintenant ça va être développé dans le monde.
C'est-à-dire que la Semaine du son n'était pas UNESCO au départ, hein, c'était la Semaine du son, c'était un collectif de gens bien intentionnés comme moi, et puis on a fini par on s'est aperçu qu'il y avait des pays qui nous copiaient, qui voulaient faire une Semaine du son. Donc on s'est dit, bah attendez, on va faire une charte, hein, pour évidemment pour être cohérent, et on a fait une charte, et puis on s'est dit, mais maintenant il faut en parler à l'UNESCO, parce que l'UNESCO n'avait rien, ils n'avaient pas réfléchi sur l'importance du sonore justement dans nos comportements, dans le devenir de nos sociétés.
Oui.
Et donc, du coup, on leur a proposé une charte, et puis ils m'ont dit, mais c'est génial, on va la transformer en une résolution. Et en fait, c'est la résolution 39C59 qui a été adoptée par 195 pays. J'entends encore les applaudissements ce jour-là de tous les pays qui ont dit, voilà un moment important pour l'UNESCO, parce que le sonore est en train de devenir un élément clé du devenir de nos sociétés.
Oui.
Et depuis, on est maintenant la Semaine du son de l'UNESCO. Et on organise d'ailleurs à Paris largement sur 5 journées. On a 5 journées qui se passent directement à l'UNESCO. C'est gratuit, c'est ouvert à tout un chacun. Il suffit d'aller sur le site et de s'inscrire. Et c'est un bonheur que de pouvoir traiter des 5 thèmes dont on a parlé dans ce lieu qui est un lieu ouvert au monde et qui est un lieu d'intelligence.
Voilà. Et puis, il y a d'autres rendez-vous. Il y a le webinar Bruit en Ile-de-France, 18 janvier, à partir de 9h30 en Seine-Saint-Denis. Grange ouverte à Saint-Michel-sur-Orge en Essonne, le 22 janvier. Et puis, beaucoup d'autres événements à retrouver.
Il y a une soirée extraordinaire au Châtelet aussi, là je vous invite tous, c'est gracieux, c'est avec Thomas Dutronc, ça sera le 1er février, en clôture de la Semaine du son, et on parlera du son compressé, pas compressé, justement, en dynamique sonore, hein, et on fera des démonstrations avec Thomas et son orchestre. C'est gratuit, et toute personne peut effectivement y assister. C'est au Théâtre du Châtelet, et c'est le mardi 1er février à 20h. Vous voyez, on a plein de choses. On a les âges de la voix. On s'est intéressé à la voix. Ça doit vous intéresser. En quoi la voix, finalement, évolue avec l'âge.
Oui.
Et qu'est-ce que ça signifie que cette relation entre âge et voix, comment la décrire et comment, effectivement, faire tricher avec sa voix, comment faire que sa voix ne soit pas votre personnage, si on peut y arriver.
Oui.
Vous voyez, on a de très nombreuses solutions. Alors, le matin, si, on a un concert interactif au Châtelet, le dimanche matin. Il y a encore plein de places, je vous le dis. C'est à 11h. Là, on va faire sonner.
C'est pas ce dimanche, hein, c'est dimanche.
C'est dimanche 23 janvier. Et là, on va faire sonner le Châtelet à travers une présentation d'une pièce de Francis Poulenc qui s'appelle Le Mal Masqué. Et on va expliquer aux gens ce que c'est qu'un niveau, ce que c'est qu'un timbre, ce que c'est que de l'acoustique, avec des tas d'expériences très très faciles à comprendre. Et ça va durer 1 heure, et c'est total, et c'est génial. Et ça va durer de 11h à midi, c'est le dimanche matin de 23 janvier. On a encore beaucoup de place avec le Covid. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller dans les salles, mais là, le Châtelet est encore ouvert, il y a encore 1000 places disponibles.
D'accord, et c'est gratuit ?
Et c'est presque gratuit, c'était à 11 euros, je crois, enfin, c'est une participation, mais c'est pas cher.
D'accord, très bien. Merci Christian Hugonnet de nous avoir présenté votre Semaine du son. Ça débute lundi avec beaucoup, beaucoup de rendez-vous. On peut trouver tous ces rendez-vous sur un site peut-être, Semaine du son de l'UNESCO ?
La semaine du son.org, vous avez tout le programme, et vous pouvez vous inscrire directement sur toutes ces journées. Quasiment gracieuse, sauf le matin du Châtelet du 23, mais tout le reste est gracieux.
Très bien, merci à vous et merci pour votre engagement pour le son, la sensibilisation au son. Merci Christian Hugonnet.
Merci.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.